Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je sais que la semaine dernière, certains d'entre vous ont été empêchés d'accéder à cet amphithéâtre en raison de la tempête de neige. Alors du coup, pour eux, un très rapide rappel de l'épisode précédent, donc « previously ». J'ai insisté la semaine dernière sur le caractère protéiforme du charlatan. Comme personnage social, il désigne à la fois le vendeur ambulant de remèdes miracles et l'aventurier de haut vol séduisant la bonne société, mais aussi plus largement de nombreuses occurrences de faux savants ou d'imposteurs. Comme figure polémique, il relève d'un répertoire de la controverse intellectuelle. Il est utilisé pour dénoncer ceux et celles qui ne possèdent pas l'autorité ou la légitimité savante, qui ne respectent pas les règles du débat scientifique, ou qui sont accusés de tromper le public, d'abuser de sa crédulité, de le séduire au lieu de le convaincre. Enfin, nous avions vu que le charlatan avait une dimension politique, notamment chez Condorcet, il évoque la menace que la séduction de la parole et la crédulité populaire font peser sur les mécanismes démocratiques. L'hypothèse qui guide ce cours, par laquelle j'avais terminé, c'est que l'importance accordée aux charlatans dans la culture des Lumières tient à une anxiété à l'égard des mutations de l'espace public, des formes de l'autorité intellectuelle, et des nouvelles pratiques savantes. Bon, ça, c'est le résumé sérieux. Ceux qui étaient là savent qu'il était surtout question de Lucky Luke, de Quentin Tarantino, d'un médecin marseillais déguisé en druide et d'un ministre de la Santé anti-vax. Bon, mais on va faire semblant que les choses sont sérieuses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons être très sérieux, on va s'appliquer à essayer de définir le charlatan, donc retour aux sources du XVIIIe siècle. Alors, je termine sur mon résumé. La semaine dernière, justement, sans chercher à donner d'emblée une définition trop calibrée, j'avais proposé quatre critères qui, une fois réunis, permettent de circonscrire le phénomène du charlatanisme. Premièrement, la prétention à détenir un savoir, généralement gardé secret. Deuxièmement, la séduction rhétorique. Troisièmement, la théâtralité, la mise en scène de soi. Et enfin, quatrièmement, la volonté de tromper. Alors, ce dernier élément a suscité quelques interrogations et plusieurs personnes, après la séance, m'ont demandé si le charlatan cherchait vraiment toujours à tromper, s'il ne pouvait pas être lui-même dans l'erreur, persuadé du bien fondé et de l'efficacité de ses remèdes. Autrement dit, existe-t-il des charlatans de bonne foi ? Alors, ma première réponse, c'est que la tromperie est un élément, un trait essentiel du charlatan, sinon on est plutôt de l'ordre de l'erreur ou de l'hérésie. Ce sont des phénomènes un peu différents. Mais il est possible, il est tout à fait possible, que la frontière en réalité soit poreuse, qu'il y ait des cas où cette question soit justement l'enjeu de la discussion. Et donc, ma seconde réponse est, regardons de plus près. Et pour cela, commençons par étudier les dictionnaires et les encyclopédies du XVIIIe siècle. C'est donc l'objet de la séance. Alors, comme je suis légitimiste, vous le savez, dès qu'il est question de dictionnaire, je commence évidemment par le dictionnaire de l'Académie française et j'ouvre la première édition, celle de 1694. Et on y lit d'abord ceci, c'est le début de la définition. « Charlatan, vendeur de drogue, de thériaque, qui débite ses drogues dans les places publiques sur les théâtres. » Alors, c'est un début de définition tout à fait classique, on n'a pas lieu d'être surpris, elle renvoie cette définition aux vendeurs de remèdes et d'élixirs, ceux qui ne possèdent pas d'officine stable, à la différence des apothicaires, qui eux ont pignon sur rue. Et donc, ces charlatans, ils exercent en plein air et ils vont de ville en ville. le lien avec le monde du spectacle. J'avais insisté la semaine dernière sur cette origine, et on y reviendra dans deux semaines, sur cette origine commune du charlatan et du saltimbanque. Elle est explicite ici, puisqu'il s'agit, quand il parle de théâtre, il s'agit évidemment de théâtre de rue, c'est-à-dire des planches posées sur des tréteaux, ce qu'on appelait alors des bancs. Le charlatan est donc, au sens propre, un saltimbanque, étymologiquement, celui qui fait des sauts sur un banc, qui fait des sauts sur une estrade. Enfin, je précise, mais vous le savez sans doute, que la thériaque, c'est une préparation médicale connue depuis l'Antiquité, utilisée notamment comme antipoison, comme contre tous les poisons, et notamment contre les morsures de serpents, et qui, la thériaque, était considérée à l'époque moderne souvent comme une sorte de remède universel, au-delà d'ailleurs des poisons, contre toutes sortes de maladies. Alors sa composition depuis l'Antiquité a beaucoup varié. Il y entrait des dizaines de produits naturels. Chaque charlatan avait sa propre recette. C'était un ensemble de plantes médicinales, de la vipère séchée, qui normalement entrait dans à peu près toutes les compositions, quelques produits rares. Et la thériaque, de même que l'orviétan, qui est une variante, la thériaque est très associée au monde des empiriques et des charlatans, mais pas seulement, puisque au XVIIIe siècle, les apothicaires, la corporation des épiciers apothicaires, vendaient eux aussi de la thériaque, mais à la différence des charlatans, cette thériaque était préparée publiquement dans le cadre de la corporation, et je reparlerai plus largement de ce monde des épiciers apothicaires lorsque nous aborderons dans une autre séance la question des remèdes secrets au XVIIIe siècle. Alors la suite de la définition est intéressante aussi, vous voyez, il se dit aussi, charlatan, d'un médecin qui est hableur, qui se vante de guérir toutes sortes de maladies. Alors vous voyez, on quitte le monde des vendeurs ambulants et des spectacles de rue pour passer du côté des abus de la médecine. Le charlatan est bien un médecin, mais un médecin fanfaron, vantard, qui prétend plus qu'il ne peut tenir. C'est l'univers des médecins dont se moque Molière, vous le savez bien, au même moment, enfin quelques années avant. Ces pédants qui parlent avec éloquence, qui sont très sûrs d'eux et qui ne guérissent jamais personne. Pensez notamment au célèbre Diafoirus, père et fils, ridiculisé dans Le Malade imaginaire. Et puis, l'article ajoute cette incise intéressante. Non, pardon, je suis allé trop vite. Juste ici. Plusieurs disent que pour être médecin, il faut être un peu charlatan. Le charlatan n'est pas l'opposé du médecin. La frontière est poreuse. Tout médecin est forcément un peu charlatan. Ce que l'on peut comprendre, à mon avis, de deux manières. Je me suis beaucoup interrogé sur cette phrase qui est en réalité un peu mystérieuse. Alors, soit c'est une raillerie de plus contre les médecins, plus éloquent que compétent, et autrement dit, tous les médecins sont en réalité des charlatans, ils parlent beaucoup mais ils ne guérissent pas. Soit au contraire, c'est l'amorce d'une réflexion sur le fait que le médecin ne peut pas toujours, même le bon médecin, ne peut pas toujours avoir recours à des arguments rationnels et à une modestie pragmatique. Le bon médecin doit mettre en scène son assurance pour rassurer le patient et pour gagner sa confiance. Et on verra dans d'autres séances, d'autres exemples de ce type de raisonnement. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec cette deuxième partie de la citation, nous avons quitté l'univers social de la rue pour celui plus large de la séduction par la parole. Et c'est précisément ce que nous dit la fin de la définition, qui élargit au sens figuré bien au-delà du monde médical. Il signifie, figurativement, flatteur qui tâche d'amadouer par de belles paroles, par des promesses spécieuses. N'écoutez pas cet homme-là, c'est un charlatan. Alors vous voyez que ce sens figuré ne date pas de la fin du XVIIIe siècle, comme on le dit parfois. On dit souvent au XVIIe siècle, le charlatan, c'est le médecin ou le mauvais médecin, et puis au XVIIIe siècle, on a un élargissement, pas du tout. C'est déjà présent dans les dictionnaires à la fin du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, à cette date, cette acception avait donné naissance déjà à un verbe, le verbe charlataner, que le dictionnaire définit ainsi, tâcher d'amadouer par flatterie, par belles paroles, elle pensait me charlataner, ne vous laissez pas charlataner. Alors, c'est formidable, hein, moi j'adore. Et d'ailleurs, je regrette un peu que ce verbe soit tombé en désuétude, et donc je vous propose de le réhabiliter. Je pense que si on s'y met tous, qu'on l'utilise, ça peut avoir un effet, ça serait vraiment formidable hein, de le remettre en usage. On dirait, oh là là, je me suis bien fait charlataner. Ou alors, oh, il nous a charlataner. Voilà, je pense qu'il y a un petit potentiel, donc je propose qu'on y travaille ensemble. En tout cas, ce qui est intéressant avec le dictionnaire de l'Académie, c'est que, en tout cas au XVIIIe siècle, il le refaisait régulièrement. Aujourd'hui aussi, mais c'est plus long. Et donc, on peut suivre l'évolution de la définition. Alors, l'édition de 1718 se contente d'ajouter une phrase après la première partie de la définition, hein, vous voyez, vendeur de drogue, etc. C'est ordinairement un terme de mépris. Donc, on insiste sur cet élément. Pour le reste, la définition reste inchangée à travers les éditions de 1740 et 1762 jusqu'à la définition de 1798. Et là, la phrase que j'ai commentée tout à l'heure, plusieurs disent que pour être médecin, il faut être un peu charlatan. Eh bien, elle est changée, elle devient « ce n'est point un médecin, ce n'est qu'un charlatan ». Alors, vous voyez, ça change tout. Non seulement le terme est devenu méprisant, on insiste, mais il n'est plus question que le médecin soit un peu charlatan. La frontière semble totale, le charlatan est devenu l'envers du médecin, du moins dans le dictionnaire de l'Académie, on verra si il en est partout de même. Alors, j'aurais pu dire aussi un mot de la définition qu'on trouve dans le dictionnaire de Furtière. Alors, en général, les modernistes aiment bien commencer plutôt avec le dictionnaire de Furtière, qui est plus de légitimité, c'est ça que ça m'a amusé de prendre plutôt le dictionnaire de l'Académie. En réalité, la définition chez Furtière est très, très semblable, donc je l'affiche ici sans la lire, parce que je voudrais avancer, mais voilà, si vous pouvez la lire, sinon vous la trouvez très facilement. En fait, elle est très proche. On y trouve aussi l'association entre médecine et théâtre, l'élargissement à toute parole séductrice, y compris au sens, et c'est avec charlatané, au sens de la séduction sentimentale. Et comme l'a montré Jean-Pierre Cavaillé, cette définition s'inscrit dans un réseau très dense chez Furtière de réflexions sur la tromperie et la dissimulation. Et il y a tout un lexique hein, de la tromperie, de l'intrigue chez Furtière. Et je note aussi que Furtière ajoute la référence italienne à l'étymologie et aux habitants de Cireto, dont on avait parlé, ce qui montre que cette étymologie était connue à l'époque. Alors, je passe maintenant à le passage incontournable, hein, lorsqu'on cherche un mot au XVIIIe siècle, c'est évidemment l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Il se trouve qu'elle contient deux articles qui nous intéressent, l'article « charlatan » et l'article « charlatanerie ». Donc l'article « charlatan », il est écrit par le chevalier de Jaucourt, qui est, vous le savez, un infatigable compilateur qui a écrit plusieurs dizaines de milliers d'articles pour l'encyclopédie, et par ailleurs un article « charlatanerie » qui a été écrit par Diderot lui-même. Alors, l'article de Jaucourt, « charlatan », commence d'emblée par préciser qu'en matière médicale, enfin que la définition du charlatan en matière médicale, c'est l'objet de son article, n'est, dit-il, qu'une acception particulière. Une acception particulière, et il renvoie à l'article de Diderot pour la définition générale. Et Jaucourt était bien placé pour écrire sur le charlatan médical, puisque lui-même était médecin, il avait fait des études de médecine, il était docteur de l'université de Leyde, même s'il n'a jamais pratiqué, donc il avait un intérêt très fort pour ces questions médicales. Et l'article s'ouvre par la nécessité de distinguer entre médecin et empirique. Hein, je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, et ce que rappelle Jaucourt, hein, c'est que depuis, traditionnellement, c'est-à-dire en réalité depuis le Moyen-Âge, l'empirique, c'est le médecin qui n'est pas docteur de la faculté de médecine ou le chirurgien qui n'appartient à aucune corporation. Bref, les empiriques, ce sont les gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de certification officielle, qui prétendent soigner grâce à des méthodes traditionnelles, des secrets qu'ils sont les seuls à connaître. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que voit apparaître, par rapport à une définition précédente, cette idée importante que c'est le diplôme, ou plutôt son absence, qui est le critère essentiel permettant de distinguer les charlatans. Mais tout de même, cette expression, qui est une expression très traditionnelle, qu'on trouve énormément au XVIIe ou au XVIIIe siècle, d'empirique, pour désigner justement les médecins, on va dire pour aller vite aujourd'hui, non officiels, enfin non diplômés, bah, ce terme, il est un peu embarrassant pour les encyclopédistes, parce que les médecins de la faculté de médecine soient très fiers de leur savoir livresque et théorique et qu'ils disqualifient les connaissances purement empiriques, cela pouvait se comprendre, d'autant que la faculté de médecine était réputée pour son conservatisme épistémologique. Mais c'était plus gênant pour des encyclopédistes qui, eux, valorisaient les savoirs pratiques issus justement de l'expérience et toute forme d'innovation. Si bien que le terme était ambivalent, et Jaucourt s'empresse donc de définir, on pourrait dire, le mauvais empirique et le bon empirique, c'est-à-dire les empiriques éclairés, parfaitement respectables, et les mauvais empiriques, qui eux sont ce qu'il appelle les faux empiriques, qui sont eux les charlatans. Et donc vous voyez que c'est intéressant, parce que ça veut dire que la question légale, qui a le droit d'exercer, qui a un diplôme lui permettant d'exercer, et c'est ce qu'on appellera à partir de 1803 et aujourd'hui l'exercice illégal de la médecine, qui est une des définitions possibles du charlatanisme, eh bien, elle se double ici d'une question épistémologique. Quel est le bon savoir? Et donc, qui est le bon médecin? Celui qui va soigner. Est-ce que le bon savoir, c'est celui qui est conforme à la tradition savante, et notamment antique, mais qui est remise en cause fortement depuis le milieu du XVIIe siècle? Est-ce que c'est celui qui est fondé sur des pratiques éprouvées, des remèdes populaires qui ont démontré leur efficacité, ou encore sur celui qui est fondé sur des expériences nouvelles et des découvertes récentes? Sur le plan épistémologique, justement, eh bien, Jaucourt va s'en sortir en disant que la vraie distinction, celle qui vraiment permet de différencier le médecin du charlatan, eh bien, c'est le doute, c'est la modestie. Car le bon médecin, et Jaucourt prend ici comme modèle Hippocrate, sur lequel nous reviendrons, le grand médecin grec du Ve siècle, eh bien, ce Hippocrate, en figure du bon médecin, reconnaît qu'il fait des erreurs. Il guérit, mais il ne guérit pas toujours, et il le reconnaît. Il sait qu'il ne peut pas toujours soigner, alors que le second, le charlatan, prétend toujours avoir le remède adéquat. Autrement dit, c'est une leçon intéressante, si un médecin est sûr de vous guérir, méfiez-vous, c'est un charlatan. Alors, Jaucourt insiste ensuite sur un point que nous avons déjà remarqué, le caractère protéiforme du charlatanisme médical, depuis le vulgaire charlatan de village qui trompe les gens les plus humbles, jusqu'au charlatan de cour qui trompe les gens riches, mais non moins crédules. S'il en est ainsi, c'est que le charlatanisme n'est pas seulement un phénomène populaire et pittoresque, c'est qu'il est propre à la nature humaine. Il révèle un trait anthropologique fondamental, la crédulité. Depuis que les hommes vivent en société, il y a eu des charlatans et des dupes, écrit Jaucourt, et Condorcet s'en souviendra. La tromperie est omniprésente dans l'histoire humaine, elle prend simplement des formes différentes. Parcourez l'histoire médicinale des Égyptiens et des Hébreux et vous n'y verrez que des imposteurs. Et d'ailleurs, les Grecs et les Romains, malgré Hippocrate et Galien, n'étaient pas mieux lotis. Alors, je ne vais pas développer la suite de cet article, qui est je renvoie, hein, toute l'encyclopédie, vous savez, est en ligne et très facilement accessible. La suite est une série de portraits de charlatans ayant sévi en France depuis la fin du XVIIe siècle, depuis un aventurier italien, qui s'appelait le marquis Caretto. Et je vais simplement vous citer le cas du sieur Bourret, qui, je cite l'article, « débarqua à la cour avec des pilules merveilleuses dans les coliques inflammatoires, mais malheureusement pour la fortune de celui-ci, il fut attaqué lui-même tout en débarquant de cette maladie que son remède augmenta tellement qu'il en mourut en 4 jours. » fait remarquer que vous riez d'un monsieur qui est mort en 4 jours de colique inflammatoire, et donc ça ne plaide pas beaucoup pour votre sens de l'empathie. Bon, enfin, c'est comme ça. Enfin, bon, c'était il y a longtemps, on va dire. Alors, la liste contient des moines, des aventuriers, un paysan qui connaissait tellement bien les vertus des plantes qu'il se trouva paré du titre de médecin par la renommée locale, attirant une foule de visiteurs dans son village. Et donc là, on est peut-être au plus proche de ce qu'on pourrait appeler un charlatan contre son gré, un charlatan de bonne foi, mais attirant sur sa réputation. Alors, je ne m'arrête pas sur cette liste, elle est amusante, mais voilà, c'est tout. Je voudrais plutôt passer à l'article « Charlatanerie » de Diderot, parce qu'il est court, beaucoup plus court, et il mérite, je crois, d'être lu en entier. « Charlatanerie », c'est le titre dont on a décoré les gens qui élèvent des tréteaux sur les places publiques, qui distribuent au petit peuple des remèdes auxquels ils attribuent toutes sortes de propriétés, voyez charlatan. Ce titre s'est généralisé depuis, et l'on a remarqué que tout État avait ses charlatans. En sorte que dans cette acception générale, la charlatanerie est le vice de celui qui travaille à se faire valoir, ou lui-même, ou les choses qui lui appartiennent, par des qualités simulées. C'est proprement une hypocrisie de talent ou d'état. La différence qu'il y a entre le pédant et le charlatan, c'est que le charlatan connaît le peu de valeur de ce qu'il surfait, au lieu que le pédant surfait des bagatelles qu'il prend sincèrement pour des choses admirables. D'où l'on voit que celui-ci est assez souvent un sot et que l'autre est toujours un fourbe. Le pédant est dupe des choses et de lui-même, les autres sont au contraire les dupes des charlatans. Alors, que retenir de ce texte, qui est dense? D'abord, la thèse centrale, le terme de charlatan n'est plus réservé aux saltimbanques et aux vendeurs de remèdes, car il existe des charlatans dans toutes les professions. C'est la phrase centrale, tout État a ses charlatans. Le charlatan, c'est toute personne qui prétend avoir une compétence qu'il ne possède pas réellement. Il simule, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il se vante. D'où cette formule, une hypocrisie de talent et d'État, ou d'État. Et donc, au cœur du charlatanisme, il y a donc bien, premièrement, la vantardise. Le charlatan met en avant des qualités. Il vous embobine en se mettant en valeur. Deuxièmement, le mensonge, ses qualités ne sont pas réelles. Et en ceci, le charlatan se rapproche de l'imposteur, de l'escroc, ce qu'on appelait aussi au XVIIIe siècle un fripon. Celui qui prétend être un remarquable avocat, mais qui ne connaît pas la loi et vous fait perdre votre procès, est un charlatan. Celui qui prétend être un riche aristocrate étranger, alors qu'il n'est qu'un aventurier sans vergogne, est un charlatan, etc. Puis, Diderot, vous le voyez, conclut un peu brutalement, il faut bien le dire, par le passage, par cette distinction parallèle entre le pédant et le charlatan. Alors, ça pourrait paraître curieux, on aurait pu plutôt penser, avec ce qui précède, qu'il allait comparer le charlatan à l'imposteur ou le charlatan au fripon. Alors, pourquoi le pédant? Eh bien, c'est un signe d'un déplacement vers la question des vices intellectuels. Ce que Diderot a en tête, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là la charlatanerie littéraire ou la charlatanerie philosophique. Et notamment depuis le succès européen d'un livre publié en latin en 1715 par un savant allemand, Johann Burckhardt Mencke, qui a été traduit dans toute l'Europe, et notamment en français en 1721. Alors, je ne reviens pas, je ne développe pas aujourd'hui, je ferai une séance complète consacrée à Mencke, et donc son livre s'appelait « La charlatanerie des savants » ou « La charlatanerie des érudits », et je consacrerai un chapitre à cette question qui est un long débat tout au long du XVIIIe siècle sur cette question de la charlatanerie des savants. Mais pour le moment, je retiens ce parallèle entre deux vices intellectuels, le pédant et le charlatan, qui sont deux figures repoussoires pour les philosophes des Lumières. D'un côté, le pédant, c'est l'érudit ennuyeux, celui qui se perd dans des détails qui n'intéressent que lui, qui est incapable de faire la distinction entre l'important et l'accessoire, qui est prisonnier de l'esprit de sérieux, qui ne réussit pas à prendre de la distance à l'égard de son propre savoir et de sa propre position, si bien qu'il parle toujours comme s'il s'adressait à des élèves. De l'autre côté, le charlatan, qui ne sait rien, mais fait croire qu'il possède une science inépuisable. Au fond, ce sont deux façons illégitimes et symétriques d'essayer d'en imposer à son public. Or, le philosophe, tel qu'il a été défini par le grammairien Dumarsais, dans un texte de 1730 qui a d'abord beaucoup circulé de façon clandestine, puis qui a été publié dans l'encyclopédie, justement, comme une sorte de programme socio-culturel pour les hommes de lettres, eh bien, le philosophe, c'est celui qui, justement, se tient à égale distance de ces deux périls. À la différence du pédant, il ne veut jamais ennuyer, il traite ses interlocuteurs avec politesse. À la différence, inversement, évidemment, la différence du charlatan, son savoir est réel et il se dévoue à la vérité. Comme l'écrit Voltaire aussi dans l'article Jean de Lettres, toujours dans l'encyclopédie, le grand mérite des écrivains du XVIIIe siècle, à ses yeux, est d'être sortis de leur bibliothèque, d'être aussi à l'aise dans le monde que dans le cabinet. Le philosophe, selon Dumarsais, l'homme de lettres, selon Voltaire, sont des figures positives qui s'opposent aussi bien au pédant qu'au charlatan. Diderot, lui, insiste sur tout ce qui oppose ces deux épouvantails. Les deux ont en commun de se vanter, mais le pédant croit à ce qu'il dit, il est persuadé de l'importance de ce qu'il raconte, et donc, autrement dit, il est la dupe de lui-même. Le charlatan, lui, sait très bien qu'il est un imposteur. Autrement dit, si on retient le critère de la tromperie volontaire, c'est-à-dire de l'hypocrisie, pour parler comme Diderot, eh bien, on passe du pédant au charlatan. Autrement dit, le charlatan de bonne foi n'est qu'un pédant. Alors, je viens de citer Voltaire il y a un instant. Or, il se trouve que Voltaire a répondu à ces deux articles de l'encyclopédie. Il y a répondu, ou plus exactement, il les a prolongés, car de 1770 à 1772, il publie plusieurs volumes des questions sur l'encyclopédie. Les questions sur l'encyclopédie ne sont pas son livre le plus connu, mais c'est sans aucun doute le plus important des écrits de la dernière partie de sa vie. Ça se présente comme un dictionnaire en 9 volumes, donc publié pour la première fois au tout début des années 1770. Et Voltaire recourt à nouveau au principe alphabétique qu'il avait déjà utilisé dans le dictionnaire philosophique portatif, avec lequel, d'ailleurs, les questions sur l'encyclopédie ont souvent été confondues dans les éditions du XIXe siècle. Mais je passe, car nous disposons aujourd'hui d'une formidable édition de référence publiée à la Voltaire Foundation par Nicolas Cronk et Christiane Mervaux. Et par ailleurs, vous trouverez aussi une édition plus accessible que vous voyez ici aux éditions Robert Laffont. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est évidemment l'article charlatan. Voltaire repart de la question des charlatans médicaux en s'appuyant sur le cas d'un nommé Villard qui, sous la Régence, vendait une eau miraculeuse de composition secrète qu'il vendait 6 francs la bouteille. Et la posologie était très simple, il disait « Vous buvez mon eau et vous l'accompagnez d'un régime strict, très frugal, et vous allez vous porter parfaitement bien. » Et alors, miracle, ça marche. C'est-à-dire que tous les gens qui suivaient ces instructions voyaient leur santé s'améliorer. Ce qui lui a valu une réputation extraordinaire jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'en réalité, il ne vendait que l'eau de la rivière. Donc, conclusion de Voltaire, non seulement ce Villard n'était pas dangereux, parce qu'au fond, il disait aux gens de boire de l'eau et de manger frugalement. Non seulement il n'était pas dangereux, mais il avait parfaitement compris que le principal danger, le principal problème sanitaire dans une grande ville comme Paris, était l'excès d'alimentation, et il poussait à la tempérance. On ne pouvait lui reprocher que d'avoir vendu l'eau de la Seine un peu chère. Ça amuse Voltaire, qui, lui, a toujours été persuadé, il le dit dans toutes ses lettres, qu'une vie saine était bien plus utile qu'un médecin. Alors, vous voyez, ça est plaisante, mais au fond, cette question du charlatanisme médical ne l'intéresse pas tant que ça. Il s'en débarrasse assez rapidement. Ce qu'il veut faire, c'est élargir le domaine du charlatanisme, encore bien plus que ne l'avait fait Diderot. Alors, il bifurque d'abord vers les grands politiques qui ont recours au merveilleux, aux miracles, aux prophéties, aux visions, pour impressionner la foule et asseoir leur pouvoir. Il cite Scipion, Numa, Mahomet. Au fond, on pourrait dire, première lecture, on se dit, il s'agit de la critique habituelle de l'imposture religieuse, surtout dans le cas de Mahomet, auquel vous savez que Voltaire avait déjà consacré une tragédie. Mais il y a quelque chose qui cloche, c'est que normalement, Mahomet, vous le savez, dans toute cette littérature clandestine de dénonciation de l'imposture religieuse au siècle des Lumières, eh bien, il est associé aux autres fondateurs de religions monothéistes, notamment, par exemple, dans le traité des trois imposteurs, bien connu. Donc, c'est Moïse, Jésus, Mahomet. Et non, là, pas du tout, il est associé à Scipion et à Numa, et donc plus trop traité là comme un grand politique capable d'utiliser, quand il le faut, des ressorts non rationnels pour frapper l'esprit de peuples crédules. Et le fait donc qu'il soit associé à Scipion l'Africain, le héros des guerres puniques, qui faisait croire à ses soldats qu'il était inspiré par les dieux, est tout à fait révélateur. Après les grands politiques ayant recours à du surnaturel, Voltaire se penche sur le charlatanisme intellectuel. La transition est immédiate puisque le texte passe très brutalement de Mahomet à Socrate. Avec cette question rhétorique, n'y avait-il pas un peu de charlatanisme dans Socrate avec son démon familier ? Puis il s'en prend à Charles Rollin, le grand historien de l'Antiquité de la première moitié du XVIIIe siècle, qui, dans son éloge de Socrate, avait rapporté l'épisode selon lequel l'oracle d'Apollon à Delphes avait déclaré que Socrate était l'homme le plus sage, et Voltaire commente « Comment ne fait-il pas connaître à la jeunesse que c'était une pure charlatanerie ? Socrate prit mal son temps, peut-être, 100 ans plus tôt, il aurait gouverné Athènes. » Donc, ici, Socrate est rangé dans le lot de ces habiles charlatans. Alors, c'est vraiment intéressant parce que on aurait tendance, et j'y reviendrai beaucoup plus longuement la semaine prochaine, à associer les charlatans aux sophistes. Et d'ailleurs, Voltaire a beaucoup contribué lui-même à façonner le mythe d'un Socrate philosophe, victime de la persécution, emblème universel, selon l'expression de l'historien Paulin Ismar. Il s'inscrivait à la fois dans une... Voltaire, en faisant ça, dans une longue tradition d'interprétation qui faisait de Socrate la victime des sophistes, mais aussi dans son époque, puisque de Diderot à Mendelssohn, bien des philosophes des Lumières se sont identifiés ou ont été identifiés à Socrate. Tandis que les représentations littéraires ou picturales se multipliaient pour culminer, vous le savez, avec le célèbre tableau de Jacques-Louis David sur la mort de Socrate. Dans ce contexte, il peut paraître surprenant que Voltaire décide de présenter Socrate comme un philosophe charlatan. C'est bizarre, ça ne colle pas avec ce qu'on sait par ailleurs, mais il se trouve pourtant que ce passage n'est pas du tout une anomalie, car si on regarde de près, eh bien, il existe plusieurs occurrences chez Voltaire de cette critique du charlatanisme de Socrate. Et on en trouve plusieurs occurrences toujours référées à ce même motif du démon familier. Alors, vous allez me dire, Voltaire aimait bien se répéter, c'est pas faux, mais par exemple, il écrivait déjà dans les lettres, la treizième des lettres philosophiques, « Il y a des gens à la vérité qui prétendent qu'un homme qui se vantait d'avoir un démon familier était un fou ou un fripon. » Alors, je ne m'attarde pas trop longtemps sur cette question du démon de Socrate, son « daimonion » en grec, qui désigne chez Platon, quand Platon ou Xénophon parlent de Socrate, eh bien, ce daimonion, c'est un signe divin. Ce n'est pas un démon, comme on va dire, c'est un signe divin. C'est, au fond, c'est une inspiration divine qui guide certains choix de Socrate et qui se rapproche plutôt des pratiques grecques de la divination. Et c'est plus tard, en réalité, c'est dans les écoles platoniciennes plus tardives, que la tradition s'est imposée de se référer à un démon de Socrate comme à une entité démonique intermédiaire entre les dieux et les hommes, hein, comme s'il y avait un petit démon qui lui parlait à l'oreille. Eh bien, et cette tradition s'est perpétuée dans la culture moderne, et c'est là-dessus que Voltaire s'appuie. Sur le daimonion de Socrate, je vous renvoie à un article très, très complet et très informé de Louis-André Dorion, bien sûr, plus généralement pour tout ce qui concerne la puissance divine, hein, le daimon dans la religion et la littérature grecque, au très beau livre de ma collègue Vinciane Pirène-Delforge, « Daimon, modalité de l'action des dieux en Grèce ancienne », l'an dernier dans la collection Docet Omnia du Collège de France et des Belles-Lettres. Alors, la question que l'on peut se poser, bien sûr, c'est la suivante. Pourquoi Voltaire tient-il à ironiser sur ce démon socratique ? Sans doute un peu pour se moquer des autorités, et notamment de celles et de ceux qui avaient tendance à idéaliser l'histoire ancienne. Mais surtout, et c'est là que ça m'intéresse particulièrement, pour porter le fer là où ça fait mal, pour montrer que même celui qui est censé être la référence de la raison, le philosophe persécuté pour ses idées, eh bien que même chez lui, il y a quelque chose d'impur, un usage de la superstition et de la crédulité, une sorte de petite filouterie. Là où Condorcet considère dans l'esquisse d'un tableau historique que la mort de Socrate, je cite, est le premier crime qui a enfanté la guerre de la philosophie et de la superstition, fin de la citation, eh bien Voltaire, lui, essaye de brouiller les cartes et les frontières. Ce n'est pas si évident qu'on a l'opposition du philosophe et de la superstition si le philosophe par excellence, le philosophe persécuté, eh bien, est lui-même un peu charlatan. Et à partir de là, il peut généraliser. Il est parti, il est lancé. Tout chef de secte en philosophie a été un peu charlatan. Et l'expression de chef de secte, vous voyez, elle lui permet d'associer philosophie, religion et politique, ce qui contribue encore à brouiller les frontières. Et le premier exemple qui lui vient, c'est Cromwell. Mais la philosophie et les sciences ne sont pas en reste. Voici la suite. Les sciences ne pouvaient pas être sans charlatanerie. Ne pouvaient guère être sans charlatanerie. On veut faire recevoir ses opinions. Le docteur subtil veut éclipser le docteur angélique, le docteur profond veut régner seul, chacun bâtit son système de physique, de métaphysique, de théologie scolastique. C'est à qui fera valoir sa marchandise. Vous avez des courtiers qui la vantent, des sots qui vous croient, des protecteurs qui vous appuient. Alors, vous voyez qu'ici, l'ironie voltairienne est très différente du ton qu'utilisera Condorcet, et 20 ans après, et qu'on avait commenté la semaine dernière, même si Condorcet était un grand admirateur de Voltaire. Nous ne sommes pas dans un face-à-face entre des philosophes désintéressés et des charlatans habiles. Alors certes, Voltaire fait allusion à l'univers de la philosophie scolastique, hein, le docteur subtil, c'est John Duns-Scott, le docteur angélique, c'est saint Thomas d'Aquin, et la philosophie scolastique était toujours au XVIIIe siècle l'objet de sarcasmes. Mais la leçon est plus générale. La charlatanerie est partout, car la science est aussi un monde social marqué par le désir de domination, de réussite, de célébrité, par des forces qui n'ont rien à voir avec la vérité. Les intérêts, les passions, les réseaux. Il n'est pas vrai, suggère Voltaire, il n'est pas vrai que les philosophes et les savants cherchent uniquement la vérité. Ils veulent aussi l'emporter dans cette compétition qu'est la vie intellectuelle. Alors, après cette petite leçon de sociologie intellectuelle expédiée en quelques lignes, Voltaire s'amuse à résumer à sa façon l'histoire récente de la philosophie comme celle d'une succession de charlatans vendant chacun des potions miraculeuses. Vous voyez ? L'un établit des tourbillons de manière subtile, rameuse, globuleuse, striée, cannelée. L'autre, des éléments de matière qui ne sont point matière, et une harmonie préétablie qui fait que l'horloge du corps sonne l'heure quand l'horloge de l'âme la monte par son aiguille. Ces chimères trouvent des partisans pendant quelques années quand ces drogues sont passées de mode, de nouveaux énergumènes montent sur le théâtre ambulant. Ils bannissent les germes du monde, ils disent que la mer a produit les montagnes et que les hommes ont été autrefois poissons. Alors, bon, vous aurez peut-être reconnu en passant la physique de Descartes, avec ses tourbillons défendus et popularisés par Fontenelle. Voltaire adorait s'en moquer en bon newtoniste. La seconde référence, c'est l'harmonie préétablie qui renvoie à Leibniz, là aussi, que Voltaire aimait caricaturer. Enfin, les propositions géologiques et transformistes sont celles de Buffon et surtout celles du Téliamède de Benoît de Maillet, un des grands succès de la pensée hétérodoxe et matérialiste du début du siècle. Alors, Voltaire raconte cela à sa manière, en créant un effet d'étrangeté, un peu grotesque, en caricaturant chaque proposition selon sa méthode satirique habituelle. Donc, l'ensemble est amusant parce que la métaphore est suivie. Les drogues, le théâtre ambulant. Mais n'est pas seulement amusant, justement. Il est aussi profond parce que Voltaire rappelle ici que les théories scientifiques ou philosophiques se succèdent, qu'elles sont remplacées les unes par les autres, et que philosophes et savants devraient donc les défendre avec un peu plus de modestie et de modération. Les théories philosophiques et scientifiques sont aussi soumises à des effets de mode, stimulées par l'imitation et la publicité. On peut toutefois relever que Voltaire considère comme particulièrement absurde et chimérique l'idée de transformation des espèces, qui pourtant, à certains égards, annonçait la révolution darwinienne et l'évolution des espèces. Donc le charlatanisme n'est pas toujours où on le croit. Alors rassurez-vous, pour ceux qui seraient attachés au conflit des facultés, les philosophes ne sont pas seuls en cause, les historiens ne sont pas moins charlatans, car, dit Voltaire, ils rechignent rarement à flatter le goût des lecteurs et la vanité des puissants. Combien a-t-on mis de charlatanerie dans l'histoire, soit en étonnant le lecteur par des prodiges, soit en chatouillant la malignité humaine par des satires, soit encore en flattant des familles de tyrans par d'infâmes éloges. Alors on voit que Voltaire, j'arrête un peu les citations un instant, parce que on voit que, mais je vais y revenir, on voit que Voltaire opère un double déplacement, vous avez vu, d'une part du charlatan comme figure sociale ou incarnation du mal intellectuel et politique, vers la charlatanerie comme pratique. Et il s'agit moins, de ce point de vue-là, de dénoncer des charlatans que de pointer des doses de charlatanerie à l'intérieur de toute activité intellectuelle. Et, par ailleurs, relève de la charlatanerie tout ce qui échappe à l'argumentation rationnelle et à la logique proprement savante. De ce point de vue, on peut dire que le charlatan ne cherche pas forcément à tromper, mais à séduire ou à utiliser des arguments, des éléments, des outils non strictement rationnels ou argumentatifs pour accréditer ou diffuser ses idées. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, Voltaire déplace une nouvelle fois l'analyse en braquant le projecteur non plus sur les théoriciens et leur volonté de domination, mais sur les écrivains pauvres pris au piège des logiques marchandes et commerciales. Alors vous savez sans doute que la critique des pauvres diables et de la canaille littéraire est un leitmotiv de Voltaire. Robert Darnton a beaucoup insisté sur ce point pour construire son image clivée du monde littéraire entre, d'un côté, les grands écrivains des Lumières et de l'autre, les Rousseau du Ruisseau. Il y est revenu d'ailleurs dans son dernier livre, La condition d'écrivain. Voltaire écrivait par exemple dans l'article auteur du dictionnaire philosophique, je le cite, « Ces pauvres gens », il parle donc des écrivains qui écrivent pour gagner leur vie, « ces pauvres gens se partagent en deux ou trois bandes et vont à la quête comme des moines mendiants. » C'est une citation dans un florilège possible de ce type, et on y voit souvent une marque de l'élitisme et de l'arrogance un peu hautaine de Voltaire. Mais dans ce texte, chapitre, Voltaire, les pauvres diables littéraires sont plus malheureux que coupables. En fait, ce sont des charlatans, mais ils sont utilisés, dit Voltaire, ils sont instrumentalisés par de bien plus grands charlatans, les marchands libraires, ce que nous appellerions aujourd'hui en fait des éditeurs, qui leur commandent de mauvais livres pour répondre à la demande et pour inonder le marché. Alors là, on va citer à nouveau, parce que c'est, alors la citation est un peu longue, mais elle est tout à fait frappante. « La malheureuse espèce qui écrit pour vivre, donc c'est vraiment typiquement une formule de Voltaire, est charlatane d'une autre manière. Un pauvre homme qui n'a point de métier, qui a eu le malheur d'aller au collège, qui croit savoir écrire, va faire sa cour à un marchand libraire et lui demande à travailler. Le marchand libraire sait que la plupart des gens domiciliés veulent avoir de petites bibliothèques, qu'il leur faut des abrégés, des titres nouveaux. Il ordonne à l'écrivain un abrégé de l'histoire de Rapin-Toiras, un abrégé de l'histoire de l'Église, un recueil de bons mots tirés de Ménagiana, un dictionnaire des grands hommes où l'on place un pédant inconnu à côté de Cicéron et un sonnettiero d'Italie auprès de Virgile. Un autre marchand libraire commande des romans ou des traductions de romans. Si vous n'avez pas d'imagination, dit-il à son ouvrier, vous prendrez quelques aventures dans Cyrus, dans Gusman d'Alfarache ou dans les mémoires secrets d'un homme de qualité ou d'une femme de qualité, du total, vous ferez un volume de 400 pages à 20 sous la feuille, etc. Et ça continue, je vous épargne la suite. Alors, heureusement, ce genre de pratiques éditoriales a totalement disparu de nos jours. Mais dans ce modèle commercial, typiquement 18e, que Voltaire dénonce, eh bien, ce qui est dominant, c'est qu'il faut s'adapter au marché. Les livres ne valent pas pour leur contenu, mais pour remplir les étagères de gens qui veulent avoir chez eux une bibliothèque. Il faut donc des nouveautés, ou plutôt des titres nouveaux pour des livres qui ne le sont pas, des compilations, des synthèses, des plagiats, des réécritures, le tout rehaussé par des noms d'emprunt. Et je signale en passant que tous les titres que cite Voltaire ici ne sont pas du tout des inventions, hein, ce sont toutes des références précises et très généralement des livres que Voltaire possédait dans sa bibliothèque, puisqu'on a l'inventaire de sa bibliothèque. Le charlatan ne se montre plus sur la place publique, grimpé sur des tréteaux, il n'est plus cette figure archaïque, amusante et pittoresque dont on pouvait se moquer, il est au cœur du nouvel espace public médiatique, celui du livre et de l'imprimé. Derrière l'auteur charlatan qui écrit à la ligne de mauvais livres pour gagner sa vie, il y a le libraire imprimeur qui contrôle ses ouvriers, veut écouler sa marchandise en alimentant le mauvais goût du public, sans que l'on sache d'ailleurs très bien s'il y répond ou s'il le forme. Il semble moins dangereux que le charlatan démagogue qui veut sciemment tromper le public pour le dominer, dont parlait Condorcet, mais au fond, il l'est peut-être davantage, parce que la recherche du profit contribue à pervertir profondément le monde littéraire, à saturer le marché de livres inutiles qui chassent les bons comme la mauvaise monnaie chasse la vraie. Le profit déséquilibre l'espace médiatique qui n'est plus au service du progrès de la connaissance parce que l'amas de livres ressemble à l'étal d'un charlatan. Que faire lorsqu'on est philosophe si le savoir devient une marchandise ? Voltaire conclut alors, et c'est la dernière phrase de l'article, « De ces sortes de livres, il y en a environ 50 000 en Europe, et tout cela passe comme le secret de blanchir la peau, de noircir les cheveux et la panacée universelle. » Alors, on peut évidemment récuser l'élitisme de Voltaire, son mépris à l'égard du public, son ton grand seigneur, un petit peu réac, hein, côté « c'était mieux avant bon. ». Mais ce qui est intéressant, c'est que Voltaire n'hésite pas à s'inclure, au moins tacitement. Au tout début de l'article, je vous ai passé ce moment-là, il cite, il évoque en plaisantant des sachets contre l'apoplexie, qui étaient les sachets de l'apothicaire Arnoux. Et il les cite comme un symbole des remèdes de charlatan. Alors qu'est-ce que c'est ? C'était en fait des sachets qui étaient remplis d'une matière un peu volatile, sans doute du camphre en particulier, que vendait donc cet apothicaire, qu'il fallait porter, j'ai intérêt à pas le porter autour du cou, ça va faire beaucoup de bruit, donc il fallait porter autour du cou pour se protéger contre ce qu'on appelait les crises d'apoplexie. Hein, les crises d'apoplexie au XVIIIe siècle, c'est au fond ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC. Hein. Et ces sachets avaient fait donc la fortune de Guillaume Arnoux, puis de son fils Louis Arnoux, épicier droguiste rue Quincampoix, qui possédait un privilège royal et faisait la publicité de ses sachets dans les journaux, y compris dans le Mercure de France. En 1748, la veuve de son oncle essaya d'en produire une contrefaçon sur des histoires de famille, mais elle fut condamnée. Et entre parenthèses, et là encore on y reviendra dans la séance sur les remèdes, mais vous voyez que l'identification du charlatanisme à un commerce illégal n'est pas du tout évidente. La vente par Arnaud de ses sachets était non seulement légale, mais protégée. Quoi qu'il en soit, c'était un des sujets favoris de plaisanterie de Voltaire. Il les a évoqués à plusieurs reprises, notamment dans un chapitre de Zadig, je vous y renvoie, celui sur l'imposture. Là je m'arrête parce que le texte est moins connu, dans une lettre à son ami Thiérot en 1768, dans lequel il écrivait, 68, donc on est 2 ans avant l'écriture des questions sur l'encyclopédie, « Ma foi, mon ami, tout le monde est charlatan. Les écoles, les académies, les compagnies les plus braves ressemblent à l'apothicaire Arnoux, dont les sachets guérissent toute apoplexie dès qu'on les porte au cou, et à Monsieur Lelièvre qui vend son baume de vie à force gens qui en meurent. » Or, et c'est ça qui m'intéresse, à la fin de la lettre, Voltaire se plaint, comme il le fait rituellement, des libraires qui piratent ses ouvrages et publient des livres sous son nom. Et il ajoute « Ce qu'on imprime sous mon nom me fait un peu plus de peine, mais que voulez-vous? Je ne suis pas le maître. Monsieur l'apothicaire Arnoux peut-il empêcher qu'on ne contrefasse ses sachets ?» Qu'en déduire, sinon, que Voltaire, au moins implicitement, se compare ici à l'apothicaire Arnoux, qu'il dresse un parallèle entre l'activité éditoriale et la vente de remèdes. Parallèle qu'il reprendra, on vient de le voir. Le point commun entre le philosophe et le charlatan, c'est le succès public. Voltaire conclut la lettre à Thiérot en citant le fameux adage du poète latin Ovide, « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Autrement dit, lorsque l'on paraît sur le théâtre public, que l'on écrit, que l'on recherche le succès, la célébrité, que l'on vend des livres, eh bien, on devient comme l'apothicaire Arnoux, un peu charlatan. On entre, qu'on le veuille ou non, dans le monde de la concurrence commerciale. Alors, bien sûr, Voltaire ne va pas explicitement jusqu'à se présenter lui-même comme un charlatan, mais le sous-texte est celui du potentiel de charlatanisme dans tout écrivain. Et ça me fait penser à une phrase presque contemporaine, de Nicolas Chamfort, le célèbre moraliste de la fin du XVIIIe siècle, lui aussi attentif aux effets inévitables de l'ambition et de la célébrité, au point de renoncer pour sa part à la gloire, c'est-à-dire d'arrêter dans les années 1780 de publier, alors qu'il était un écrivain en plein essor, et qui, dans ses Maximes, publiées après sa mort sous la Révolution, qui écrivait « Quand on veut éviter d'être charlatan, il faut fuir les tréteaux. Car si l'on y monte, on est bien forcé d'être charlatan, sans quoi l'Assemblée vous jette des pierres. » Ce qui est une formule d'une grande sagacité, parce qu'il ne s'agit plus de dénoncer la fourberie du charlatan ou la crédulité du public, mais plutôt de mettre au jour les dynamiques propres au spectacle public. On pourrait presque dire que l'accusation est renversée. Le charlatan est victime du public. Il est obligé de se donner en spectacle. Il est obligé, qu'il le veuille ou non, de se transformer en saltimbanque. Le public n'est pas une victime crédule. Il est un maître curieux et tyrannique qui en veut pour son argent. Alors, néanmoins, et c'est ce que dit aussi Chamfort, nul n'est obligé de devenir une figure publique. L'écrivain célèbre, devenu un peu charlatan, ne peut pas se plaindre. Il doit en revanche être lucide, lucide sur ses propres désirs de célébrité, lucide sur les pratiques qu'il emploie pour attirer l'attention du public. Alors après, pour finir, après l'encyclopédie, puis les questions sur l'encyclopédie, je poursuis mon parcours encyclopédique avec l'encyclopédie méthodique. Celle-ci, vous le savez peut-être, est une grande opération éditoriale menée par Pankouk, grand mania de l'édition et de la presse à la fin du XVIIIe siècle, présentée et pensée comme une suite de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec cette différence que la matière était désormais répartie en volumes thématiques confiés à des spécialistes. La publication débute en 1782. Elle va durer 50 ans. Elle s'achève en 1832 après l'apparition de 208 volumes. Elle est un peu moins connue, évidemment, que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Elle a pourtant été un succès éditorial et elle est très utile pour faire le point sur les savoirs à la toute fin du XVIIIe siècle. Or, on y trouve un très intéressant article charlatan. Celui-ci ne figure pas dans les volumes consacrés à la médecine, publiés sous la direction de Vic d'Azyr, mais dans les volumes de jurisprudence, ce qui montre que la question du charlatanisme était perçue avant tout comme une question de police, au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'administration, de régulation de la société et de protection du public. Et c'est d'ailleurs dans le 9e tome, spécifiquement consacré à la police et aux municipalités, paru en 1789, que figure l'article en question. L'article a été rédigé par le directeur du volume, Jacques Peuchet, qui était un juriste, né en 1758, proche des philosophes, notamment de l'abbé Morlaix, qui était lui-même un économiste proche de Turgot. Sous la Révolution, Peuchet se montre un patriote modéré, favorable à une monarchie constitutionnelle, plutôt proche de Mirabeau. Ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, le charlatan est considéré comme un imposteur, de façon très général, le médecin charlatan n'étant qu'une catégorie particulière, et on retrouve ce thème. Voici les premiers mots de l'article. Charlatanisme, art de tromper le public en lui persuadant qu'on a des talents, un mérite, des secrets inconnus des autres hommes. On retrouve bien d'emblée cette idée de tromperie et toutes les connotations de ce que Diderot appelait l'hypocrisie de talent. Et l'article distingue ensuite quatre catégories. Le charlatan proprement dit, défini de manière large comme un fripon, donc un trompeur, quelqu'un qui trompe. L'empirique, qui est une espèce de charlatan appliquée à la médecine. Et troisième catégorie, l'affronteur. Alors l'affronteur, c'est intéressant, on parlera peut-être, mais l'affronteur, c'est un terme, aujourd'hui, n'est plus utilisé en ces termes, mais qui était très utilisé au XVIIIe siècle, assez utilisé au XVIIIe siècle, pour désigner ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement un escroc. D'ailleurs, c'est défini ainsi par Peuchet, c'est celui qui propose des plans, des projets, qui semble très sérieux, et puis une fois qu'il a empoché l'argent, ne remplit pas ses promesses, et il se révèle ouvertement pour ce qu'il était. Bon, c'est Bernard Madoff, si vous voulez. Ah non, j'avais dit plus d'anachronisme, pardon. Alors, enfin, quatrième catégorie, donc, l'imposteur, c'est celui qui subjugue l'opinion en jouant les inspirés et en employant des moyens prétendument surnaturels. Et donc, on est plutôt ici dans le domaine du faux prophète. Ces différentes catégories ont en commun l'idée de tromperie, charlatan étant donc le terme générique qui réunit l'escroc, l'empirique, le faux prophète. Alors, je ne lis pas tout l'article, mais on n'a plus le temps, mais je m'arrête sur deux points. D'abord, il y a une critique extrêmement véhémente du charlatanisme politique. On est en 1789, dans des termes qui ne sont pas très éloignés de Condorcet. Vous avez ici la citation, je ne vais peut-être pas la lire en entier, « De tous les charlatans, je n'en connais point de plus odieux que ces âmes debout, etc., etc., qui font servir la faiblesse et l'imbécilité des peuples au maintien du despotisme, à l'accroissement de la servitude publique. » Donc, vous voyez cette idée du charlatanisme politique, dont on avait beaucoup parlé la semaine dernière. On est en 1789, c'est quelqu'un qui est un réformateur éclairé, qui va être un révolutionnaire modéré, elle est très présente. À ces charlatans politiques, qualifiés aussi de fauteurs de l'esclavage des peuples, l'article associe, mais de façon subalterne, dit-il, ceux qui pratiquent le charlatanisme dans les sciences et les arts. Et là où Peuchet se distingue, notamment de Condorcet, c'est qu'il n'épargne pas les académies et les autorités savantes. Celles-ci, dit-il, ont souvent encouragé le charlatanisme par leur esprit de corps, leur arrogance, leur mépris à l'égard des savants moins réputés. Je cite, « Les académies fourmillent de charlatans à leur manière. Ceux-ci n'ont point trouvé leur habit galonné chez le fripier, ils l'ont trouvé sur le banc académique. Alors, d'ailleurs, n'imaginez pas qu'il s'agisse d'une plaisanterie sur le fameux habit vert des académiciens et leur non moins fameuse épée. D'abord, parce qu'on ne plaisante pas avec ce genre de choses, mais surtout parce que ce costume ne date que du consulat. Il va être, c'est Bonaparte en 1801 qui va l'imposer, à la demande d'ailleurs des académiciens. En fait, il s'agit plutôt d'une moquerie sur la part de théâtralité liée au prestige académique et donc sur l'idée même d'une grandeur d'apparat. La référence au banc, en revanche, vous l'avez entendu, elle ne vous a pas échappé, c'est véritablement un portrait de l'académicien en saltimbanque. Ou encore, comme l'écrit l'auteur, il s'agit d'une description du charlatanisme du bel esprit, et celui-ci, la formule vaut le détour, c'est le charlatanisme du petit génie à grande prétention. Alors néanmoins, l'auteur s'empresse de nuancer si les académies et les sociétés savantes ne sont pas exemptes de défauts, elles ont aussi joué un rôle bénéfique, tout particulièrement les académies des sciences, en détruisant le goût du merveilleux, qui est un aliment du charlatanisme, en particulier dans le domaine de la santé publique, ce qui ramène l'auteur à la question de la médecine. Alors, vous le voyez, Peuchet n'a pas tout à fait l'ironie et le mauvais esprit de Voltaire et Champfort, il va pas jusqu'au bout de sa critique, mais il est loin aussi du manichéisme héroïque de Condorcet et plus loin encore du renversement populiste de Marat que j'avais évoqué la semaine dernière. Une dose de charlatanisme s'insinue partout, y compris dans la vie intellectuelle et dans les institutions académiques, mais au fond, ce n'est pas très grave. C'est plus ridicule qu'inquiétant. Le véritable danger vient de l'alliance de l'irrationnel, donc le faux merveilleux, dans le langage du XVIIIe siècle, le faux merveilleux, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui l'irrationnel, et du despotisme, alliance face à laquelle, les Lumières doivent lutter sans répit. Comment ? Eh bien, Peuchet déploie, et c'est la fin de l'article, le discours des Lumières modérées et réformatrices qui se traduisent par une grande méfiance à l'égard du public. Il évoque, je le cite, la crédulité de la multitude. Et dans un autre article consacré aux chirurgiens, il parlera de l'imbécilité du public qui se laisse berner. Et donc, par conséquent, la solution qui s'impose, c'est l'action éclairée de l'administration qui doit réguler les charlatans comme une profession dangereuse. Peuchet compare la police des charlatans à celle de la prostitution. Et au fond, c'est l'alliance du savoir et du pouvoir au service d'une administration éclairée et paternaliste qui doit permettre de protéger le public pour son propre bien contre les atteintes des charlatans. Et l'article s'achève par une longue discussion des réglementations concernant les charlatans et les empiriques. Et vous voyez ici une sorte d'origine, enfin, c'est pas un point d'origine, mais on pourrait tirer le fil jusqu'aux réglementations sur la santé mentale que j'évoquais la dernière fois et qui suscitaient les réactions indignées de patients demandant qu'on leur laisse leurs charlatans, en disant nous ne sommes pas mineurs. Nous sommes capables de juger. Alors, deux mots pour conclure cette séance, vraiment deux mots. Comme vous le voyez, tous ces textes hésitent en réalité, ou en tout cas circulent, entre deux positions, ou font entendre deux tonalités. La première critique vertement les charlatans, qu'il s'agisse des médecins sans diplôme ni qualification, des mauvais écrivains ou des charlatans politiques, qui tous trompent le public en faisant croire à des compétences usurpées. Et la seconde tonalité est un peu différente car elle brouille la frontière. Il y a de la charlatanerie partout. Non seulement chaque État a ses charlatans, comme dit Diderot, il y a des faussaires dans toutes les professions, mais il existe une part de charlatanerie dans tous les métiers, du moins dans toutes les professions qui ont un lien avec le public. Dès lors que l'on recherche le succès, que l'on cherche à plaire, à persuader, il est presque impossible de ne pas être un peu charlatan. Voltaire est tant celui qui va le plus loin dans cette autocritique, mais au fond, elle est l'horizon de tous ces textes. Deuxièmement, j'ai dit deux mots, tous ces textes ont fait, vous l'avez vu, de la tromperie, le critère du charlatanisme, du charlatan. Alors, pourrais facilement triompher, mais c'est pas mon genre, vous le savez. Mais bien sûr, en revanche, je préfère plutôt signaler qu'en réalité, il y a évidemment un biais. Il y a un biais, vous l'avez compris, c'est que tous ces textes sont normatifs, ils sont tous écrits du point de vue de la dénonciation des charlatans, de leur disqualification. Et il faudra, par la suite de ce cours, leur opposer, si c'est possible, la défense des charlatans, bien que les sources, évidemment, soient plus rares, mais nous en trouverons, pour estimer dans quelle mesure certains charlatans, en tout cas certains empiriques, par exemple, pouvaient, de bonne foi, juger leurs remèdes efficaces. Provisoirement, concluons que, pour répondre à la question que j'ai posée au début, que la tromperie est indubitablement un trait de la figure polémique du charlatan. Il reste à savoir si ceux qu'on désigne sous ce terme cherchent toujours à tromper. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.